Alors j'ai une question. Est-ce que dans votre monde tout baigne, tout va très bien? C'est un jardin de fleurs, il n'y a pas de violence, il n'y a que la paix, il n'y a que l'amour. Alors, bon, chez moi, ce n'est pas tout à fait ça, mais je voudrais partager une partie d'un psaume de Asaph, le psaume 73. Je vais d'abord lire les derniers versets, les versets 25 à 28. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. En allemand, il est dit « Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu dir halte. » Je traduis « C'est ma joie de me tenir près de Dieu. » Donc c'est une autre version si je retraduis. Mais « m'approcher de Dieu, c'est mon bien. » Dans le psaume 73, Asaph commence par une affirmation. « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. » Il place le fondement de ce que intellectuellement il sait. Depuis Abraham, en passant par Jacob, jusqu'à David et du temps d'Asaph, Dieu a fidèlement montré sa bonté pour ceux qui lui faisaient confiance. Aujourd'hui, les croyants confessent « Oui, Dieu est amour, c'est la réalité » et Jésus a incarné cet amour. Cette réalité est certifiée, démontrée par le sacrifice du Fils de Dieu à la croix pour prendre sur soi les péchés et la condamnation des hommes. Donc ça, nous le savons intellectuellement quand nous sommes croyants. Comme Asaph, les croyants, nous ici entre autres, malgré leur foi, notre foi, constate que l'injustice règne, je dis bien règne encore. C'est vraiment l'injustice dans notre monde qui règne, qui semble triompher. Elle règne encore au sein de l'humanité, cette injustice. Les méchants semblent triompher. Apparemment, ils sont gagnants, quoi qu'ils fassent. Vous pouvez relire ce psaume, vraiment. Asaph, il énumère tout ce qu'ils font et ça se passe bien pour eux. Leur situation semble enviable, aucun tourment, pas de souffrance, orgueilleux, violent, railleur, niant la justice de Dieu. C'est vraiment l'image que Asaph a de ces orgueilleux, de ces méchants. Et puis ils disent au verset 11, « Comment le Très-Haut connaîtrait-il ce que nous faisons? Comment saurait-il ?» Dans ce psaume, les méchants, ils se laissent aller, sans problème. Leur exemple de prospérité donne envie à ceux qui ne sont pas bien fondés, ancrés dans leur foi. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté, dit le psaume. Parce que même le peuple de Dieu, s'il n'est pas bien ancré, il se tourne vers les méchants et il va les imiter. Honnêtement, Asaph se remet en question. Ma foi, ma fidélité à Dieu, paye-t-il vraiment? Eux, ils jouissent de leur vie, ils mangent en abondance, ils n'ont pas de souffrance. Au-dessus de la misère du reste des hommes, moi, dit Asaph, chaque jour je suis frappé, tous les matins je suis puni, mon châtiment est là. Se comparer aux méchants, prospère et souvent déprimant. On embellit leur situation. Parce que faut pas se dire que ce n'est pas vrai, hein, que les méchants, ils vont très bien. Hein. En apparence, ça va bien. Mais lui, il embellit leur situation et il noircit son propre vécu. Rien ne va plus. Moi, tous les jours, il y a autre chose, ça ne va pas. Asaph s'est arrêté pour réfléchir. Pas facile. Laetitia, dimanche, en a parlé, de savoir s'arrêter à un moment et dire, maintenant, je me pose, je réfléchis, comment est-ce que ça va continuer ? La difficulté fut grande à mes yeux. Ce n'est pas facile de s'arrêter. Quand on est dans cette dépression-là, quand on constate que les autres se portent mieux et que tous les maux du monde me tombent dessus. Quand notre raison, notre perception de la condition des méchants et de notre condition de croyant est guidée par l'influence du monde, par les médias, tout ce qu'il nous faudrait pour être heureux, et ainsi de suite. Et cette influence, elle nous fait envier. On a envie des choses si on se laisse influencer. Nous avons un vrai raz-de-marée, un tsunami d'informations qui risque de nous renverser, comme une vague. Nos dernières certitudes de justice, d'avenir, peuvent être renversées quand nous nous laissons imprégner tous les jours par ce qu'on nous propose. Le secret d'Asaph pour retrouver la sérénité, la certitude d'être sur la bonne voie, entrer, pénétrer dans le sanctuaire de Dieu. Là, dans la présence de Dieu, sa vision est corrigée. Tout devient clair, limpide. Pas besoin d'envier les méchants. Leur sort est géré par le Seigneur, il est aussi maître là-dessus. C'est le Seigneur qui s'intéresse à lui en priorité. Le Seigneur s'intéresse à toi. C'est le Seigneur qui l'a saisi par la main droite. Il n'a même pas tendu, il n'a pas dit « j'ai tendu ma main ». Le Seigneur a pris ma main, hein, comme un papa. Parfois, quand l'enfant veut s'égarer, quand l'enfant ne sait plus où aller, le papa ou la maman prennent la main et reprennent les choses en main. Son sort est caché dans le Seigneur. Pas besoin d'avoir peur de manquer de quelque chose de la vie ici-bas. C'est une stratégie de l'ennemi, du trompeur. Il nous dresse une liste à rallonge de tout ce qu'il nous faut pour être heureux. Si nous entrons dans son jeu, nous nous épuisons à courir après des objectifs qui grandissent et qui ne nous satisferont jamais. Dans Hébreux 13, au verset 5, il est dit « Contentez-vous de ce que vous avez. » Cette course à autre chose pour être enfin heureux, c'est un leurre. C'est une course où tout s'accélère de plus en plus. Plus vous mettez d'efforts, plus l'objectif est repoussé. Asaph a passé beaucoup de temps à constater les injustices de son monde. Cela le déprimait. En entrant, en cherchant la présence de Dieu, il a trouvé la sérénité. Mon plus grand bien, ma joie, c'est d'avoir accès à la proximité de Dieu. M'approcher de Dieu, devenir un proche de Dieu, c'est possible. Alors dans le monde, quand on dit c'est quelqu'un qui m'est proche ou qui m'est très proche, on parle de parents, de famille. Quelqu'un qui m'est proche en famille, c'est quelqu'un, c'est mon enfant ou c'est quelqu'un qui est vraiment dans mon cercle restreint. Et Jésus nous a dit, je ne vous appelle pas serviteur, je vous appelle ami. Là, c'est une proximité, là on est proche. Le serviteur, il y a une distance, hein, à chacun sa place. Et il nous a appris à appeler Dieu Père. Papa, là aussi, la relation, c'est vraiment une relation de proximité. Et il nous exhorte, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Hein? Il n'a pas dit, je vais régler tous vos problèmes, Venez à moi, et le repos, vous l'avez en moi. » Matthieu 11, 28. S'approcher de Dieu, ce n'est pas de la religion. Il faut que nous nous rappelions ça. Ce n'est pas « je fais ci, je fais ça ». Ce ne sont pas des règles humaines qui nous donnent accès à la présence de Dieu. Dans Luc 18, les versets 10 à 14, nous avons cet exemple où Jésus raconte cette histoire. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, car je suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifiée plutôt que l'autre. Ce n'est pas notre religiosité qui nous donne accès à Dieu. Nous pouvons faire ce que nous voulons. Nous ne pouvons pas plaire à Dieu parce que nous sommes chargés de péché. Et il faut que nous nous le rappelions. On ne peut pas approcher Dieu par ses propres moyens. Un exemple, dans Genèse 11, la tour de Babel. Alors là, les hommes, ils ont appris à fabriquer des briques, ils savaient utiliser le bitume comme mortier, et ils ont dit, allons-y, on va construire une tour qui touche au ciel. On ira nous-mêmes, on n'a pas besoin que Dieu nous aide, on va monter jusqu'au ciel. On va construire une tour dont le sommet touche au ciel. C'est très intéressant. Ils avaient leur savoir-faire. Le projet semble inarrêtable. On y va, hein, même s'il faut deux, trois générations, on continue. Le ravitaillement, ben, on va s'organiser, mais ils savaient faire. Confusion par manque de communication. Dieu confond leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et c'est tout, tout à coup. Alors qu'ils ont du savoir-faire, rien ne va plus. L'un parle d'une manière, l'autre d'une autre manière, et personne ne se comprend plus. Alors, par nos moyens humains actuels, jamais égalés, nous pouvons presque créer une nouvelle humanité. Nous parlons d'intelligence artificielle, nous avons des moyens multimédia. Vous demandez quelque chose à votre téléphone, à votre radio, elle se met en route, c'est presque parfait. Nos moyens multimédia sont presque sans limite et nous ne comprenons plus ce que le prochain veut nous dire. Essayez toujours. Dans nos relations, quand nous parlons à quelqu'un, il est tellement, et moi aussi, on est tellement pris dans ce que les médias, les multimédias nous font croire, qu'on interprète tout de suite autre chose que ce que la personne dit tout simplement. Et de plus en plus. Et notre mémoire, elle flanche parce que nous sommes tous déboussolés. Nous croyons pouvoir nous émanciper du Créateur, du Sauveur. Croire en Jésus comme un enfant, c'est ringard. Hein ? Maintenant, nous savons faire, nous sommes tellement intelligents. Nous avons tellement de bouquins. Babel, c'est une fausse route pour s'approcher de Dieu. Ce ne sont pas notre intelligence qui nous rapproche d'un millimètre de Dieu, même pas d'un micron. Saül a utilisé un autre moyen pour connaître le plan de Dieu, dans 1 Samuel 28. Samuel est mort, son bon prophète. Il veut consulter Dieu, mais Dieu ne répond pas. Samuel a quitté la proximité de Dieu, Saül a quitté la proximité de Dieu. Et là, tout à coup, il est en danger. Les Philistins viennent et il ne sait plus que faire. Là, il veut demander à Dieu. Dieu ne répond pas, car Saül n'est plus sous sa grâce. Saül veut forcer l'accès auprès du Seigneur. Il fait consulter les morts par une magicienne. Il fait remonter Samuel. Le résultat est catastrophique. Le chemin vers Dieu ne passe pas par la magie, que ce soit aussi une magie religieuse. Dans Genèse 32, un autre exemple d'une approche de Dieu, Jacob peut nous sembler manquer de respect envers Dieu. Il est dans sa présence, il lutte avec un ange. Vous savez, quand il revient vers son frère, à un moment il est seul, il a envoyé sa femme et ses enfants, ses femmes et ses enfants devant, et il se retrouve seul. Et là, il lutte avec un ange, avec Dieu lui-même. Et il s'accroche. Je ne te laisserai point aller avant que tu ne m'aies béni. Ça, c'est une autre requête. Ce n'est pas sa force. Il implore juste la bénédiction de Dieu. Ça, c'est la bonne approche. Parfois, on peut se dire, mais c'était complètement à côté, hein, il manquait de respect, ne pas s'accrocher à Dieu et dire, bénis-moi ou je te lâche pas. Il a besoin de Dieu, sincèrement. Sans sa bénédiction, il est perdu. Alors, il s'accroche et il gagne. Jacques 4, 8 nous encourage. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Simplement, librement. Le publicain, ou péager, s'est présenté comme il était réellement. Un pécheur qui a besoin de grâce. Le religieux s'est présenté avec ses bonnes œuvres, avec sa supériorité par rapport aux autres. On peut toujours se comparer à quelqu'un. On trouvera toujours quelqu'un qui est encore plus mauvais que soi. Et où je suis plus fort que lui. Dans le royaume de Dieu, je l'ai dit, je le répète ici, il n'y a qu'un ramassis de pécheurs graciés. Il n'y a personne qui a le mérite. Et que ce soit après 2 jours de foi ou après 50 ans de foi, de marche avec Jésus, nous restons un ramassis de pécheurs graciés. Et ça, il faut que nous le sachions. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Ce n'est pas le trône où nous aurons notre belle place parce que nous méritons quelque chose. Quand les fils de Zébédée ou leur mère a demandé à ce que Jésus prépare une place pour ses deux fils à droite et à gauche, il leur a dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Quand nous avons mauvaise conscience, quand nous allons mal, ne nous retirons pas de la présence de Dieu. C'est ce réflexe. Ça aussi, je le dis, je me le dis à moi. Quand il y a quelque chose qui cloche dans ma vie, je reste loin des autres. J'ai honte ou alors je n'ose plus ou je suis découragé. Mais c'est là qu'il faut aller vers dans la proximité du Seigneur. Et la proximité passe aussi là où les croyants se réunissent. Dans le verset 27 du psaume 73, il est dit « Voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. » Il y a un danger de s'éloigner de la proximité de Dieu. Restez près de Dieu. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Dieu aime ses enfants. Dans Ésaïe 44, le verset 21 et 22, il est dit « Souviens-toi de ces choses, ô Marc, Sylvie, Jean-Denis, hein, je mets les noms, mon prénom. Hein. Souviens-toi de ces choses, car tu es mon serviteur. Je t'ai formé, tu es mon serviteur. Israël, je ne t'oublierai pas. » J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi car je t'ai racheté. Ne pars pas, ne t'éloigne pas. Reviens vers moi. Je t'ai racheté, c'est payé. Prends le temps de la proximité de Jésus. Seul chez toi, approche-toi de lui. Approche-toi du Seigneur aussi avec tes frères et sœurs. C'est tellement important. Tant que nous pouvons encore nous réunir, profitons pleinement des dons des uns des autres. C'est pour ça que le Seigneur voulait l'Église. C'est un outil que Christ a prévu pour cela, que nous puissions nous épauler. Parfois, comme David l'a dit, nous nous reprenons, mais surtout pour s'encourager. Et l'un a ce don, l'autre a un autre don, chacun a une part. Mais venons, apportons cela juste comme reconnaissance au Seigneur. Que sa gloire soit manifestée, c'est pour ça que l'Église est là. Reconnaissons l'importance de chacun. Ne nous privons pas de la communion des frères et sœurs. Quand nous sommes ensemble, nous nous édifions. Quand chacun reste pour soi, nous nous critiquons. Quand on est en retrait, on observe de loin, surtout ceux qui sont devant, les responsables, celui-là, de toute façon, il n'est pas mieux que l'autre, et ainsi de suite. C'est naturel. Mais quand nous vivons quelque chose ensemble, nous nous édifions les uns les autres. Approchons ensemble du Seigneur. Alors, j'ai pensé à l'exemple que David a cité, notre sœur Anne-Lise Schildknecht, quand elle pouvait être là. Elle était là. Elle voulait la proximité des frères et sœurs. Aujourd'hui, elle ne peut plus. Mais si elle pouvait, elle serait là. Physiquement, ça ne va plus. Je peux parler du couple des Hyde qui ne sont pas là aujourd'hui. Ils veulent être au culte. C'est des aînés de plus de 80, presque 90 ans. Et ils ont cette soif de la présence de Dieu parmi les frères et sœurs. Et ça les porte dans la semaine. Ne leur dites pas que j'ai parlé d'eux. Pour Anne-Lise, ce serait une grande joie si son état le permettait d'être parmi nous ce matin. Même si elle n'a pas tout compris, parce que parfois elle n'entendait plus tout, mais elle voulait être là, elle voulait vivre avec l'Église. Nous n'avons pas tous ce genre d'empêchement. Recherchons la présence de Dieu. Donnons aussi un exemple à notre jeunesse. La fidélité, quand l'Église, elle est remplie, les jeunes sont encouragés. L'exemple. Les disciples d'Emmaüs ont reconnu « Ah, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin ?» Quand ils étaient en route avec lui, avant ils étaient déprimés. Et dès qu'ils étaient à proximité de Jésus, là c'est lui qui est venu, leur cœur a commencé à brûler. Et en général, j'espère, quand nous sortons d'ici, nous sommes rechargés. Nous avons pu refaire le plein, branché sur la batterie de Dieu. J'espère, sinon ce n'est pas la peine. Quand nous nous approchons de Dieu, seuls ou en assemblée, nous goûtons à cette paix que le monde ne connaît pas, ne peut pas comprendre. Comment peut-on perdre son temps à des futilités comme ça? Combien de fois nous privons-nous de ces moments bénis à cause de nos occupations utiles ou futiles? Nous avons parfois des occupations qui sont très saines, ou alors des occupations qui... Voilà, c'est juste pour le plaisir, et demain on oublie. Combien de fois nous privons-nous de la bénédiction du Seigneur? J'aimerais conclure avec deux versets du psaume 27, les versets 4 et 5. « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protège dans son tabernacle au jour du malheur. » Amen. Prions encore. Père, tu veux nous montrer la grandeur de ta grâce. Et tu n'as pu la démontrer, mais ouvre-nous les yeux, nos cœurs, Seigneur, pour que nous comprenions que tes voies sont les meilleures, qu'être dans ta proximité, d'être ton enfant, d'être l'ami de Jésus, Seigneur. Cela change tout et que c'est tellement important que cette relation soit progressive, Seigneur, que nous avancions avec toi. Non pas pour être de meilleurs chrétiens, mais pour ne pas nous perdre dans mille choses. Nous avons besoin de la présence de ton Esprit Saint et nous te demandons que ta parole soit toujours une source d'eau vive pour chacun d'entre nous. Amen.